Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un comédien qui a marqué son époque et sans doute dont tout le monde se souvient. Je veux parler de Michel Serrault. Michel Serrault, c'est quand même quelqu'un qui a remporté 3 Césars au cinéma, pour La Cage aux Folles en 1979, pour Garde à vue en 1982, et pour Nelly et Monsieur Arnaud en 1996. Non content de ça, il a reçu 2 Molières au théâtre pour 2 pièces, 2 rôles phares du répertoire, L'Avare de Molière et Knock de Jules Romain. Il a été nommé pour les Césars de L'Argent des Autres, de La Cage aux Folles 2, de Mortelle Randonnée, de En ne meurt que deux fois et du Docteur Petiot. Signalons également que, et il en était très fier, Michel Serrault a reçu la croix et a été fait chevalier du mérite agricole. Alors, qui était Michel Serrault? Il est né en 1928. Son père était représentant en carte postale et, comme il avait une famille à nourrir, la nuit, le soir, il était contrôleur de théâtre. Ça a permis à son fils, à Michel, d'entrer dans les salles de théâtre. Et très tôt, dès l'âge de 3-4 ans, il a déclaré péremptoirement « Moi, je serai clown ». Rêve d'enfant, on peut penser que c'est un rêve qui, pour lui, est devenu réalité. Après un certain nombre de péripéties. Et je voudrais vous lire un extrait de son livre. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vous avez dit Serrault ». Voici ce qu'il met en introduction de son livre. Je jouais Knock au théâtre. À la fin de la soirée, certains spectateurs venaient me voir dans ma loge pour me dire qu'ils avaient passé un bon moment, ils étaient contents, et moi, heureux. Un jour, une dame me déclara, « Excusez-moi de vous dire ça, Monsieur Serrault, mais vous m'avez tellement fait rire !» Je lui répondis, « Ne vous excusez pas, madame, je l'ai fait exprès. » C'est là toute ma philosophie. Et la manière dont j'ai conçu mon métier, je veux faire rire, donner du bonheur, offrir des émotions, donner. Voilà le mot le plus important. C'est affaire de générosité, bien sûr, mais surtout d'authenticité. Car je crois, en toute humilité, que ce qu'il y a de plus sincère en moi, je l'ai donné, et je continue de le faire après plus de 55 ans de théâtre et de cinéma. J'ai fait exprès de vous faire rire ou de vous émouvoir pendant toutes ces années, quand vous me croisez dans la rue et me remerciez d'un sourire ou d'un mot, vous n'imaginez pas comment mon cœur s'emplit de joie. Il paraît que j'ai une drôle d'habitude que je crois tenir de ma grand-mère. Quand je parle à quelqu'un, je lui prends la main ou je pose une des miennes sur son bras. Je m'agrippe et ne lâche pas prise facilement. Vous savez pourquoi? Pour lui dire que je l'aime bien. Vous et moi, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Et je crois savoir qu'on s'aime bien. Mais avant de devenir comédien, avant de monter sur les planches, arrive la guerre. Michel Serrault se retrouve en Corrèze avec ses frères, sa sœur, et il devient enfant de cœur. Et en 1941, il décide de devenir prêtre. En 1942, il entre au petit séminaire, mais son directeur de conscience lui fait comprendre que sa vocation n'est pas vraiment au service de Dieu. Ce qui n'empêchera pas Michel Serrault de garder jusqu'à la fin une foi indéracinable. Il dira lui-même plus tard, « Si je ne suis pas devenu prêtre, c'est à cause des vœux de chasteté. » Effectivement, il a rencontré dans un cours une élève qui s'appelle Juanita Saint-Péron, qui est apprentie comédienne. Et il a décidé de devenir comédien. Et il commence, comme tous les comédiens, par faire de la figuration, par essayer de survivre. Il fait de la figuration notamment à la Comédie française. Il entre dans la troupe des Broquignoles avec Robert Derry. Jusqu'à ce qu'arrivent les années 1950-1960. Et alors là, c'est l'explosion. Le comédien éclate. Nous voilà donc au début des années 60, vers 1950, il fait une rencontre qui allait donner un nouveau tournant à sa vie, un tournant primordial, il rencontre Jean Poiret. Et avec Jean Poiret, pendant plus de 10 ans, ils vont former un duo qui va triompher dans les cabarets parisiens. Alors, parfois difficile aujourd'hui de retrouver les textes que les deux compères disaient. Voici un extrait. C'est Mesdames et messieurs, on me confie ce soir un grand privilège, celui d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous pour l'avoir vu sur scène ou à l'écran il y a quelques années, puisque c'est ici en France que sa carrière a débuté, mais c'est Hollywood, c'est l'Amérique qui en a fait la grande vedette qu'il est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir comme il le mérite, celui que personne n'a oublié et qui est aujourd'hui de retour parmi nous, Jerry Scott. Entre Jerry Scott. Et celui-ci vient de tourner plusieurs fois le rôle de Richelieu. Alors le premier, c'est Richelieu chez les nazis. Et après ce premier triomphe, j'ai tourné Richelieu et Frankenstein avec Boris Karloff, puis Richelieu sur la piste de Santa Fe, un grand western avec John Wayne. Vous n'avez pas eu de problème de costume? Non! J'avais toujours le même, robe de cardinal, barrette, pompon, ça va avec tout. Mais dans Allo Riri avec Esther Williams, ah, là bien sûr c'était pas pareil. On m'a fait une robe de cardinal en nylon transparent et imperméable pour pouvoir plonger parce que les sets de piscine, c'était quand même les plus importantes. Cher Jerry Scott, est-ce que votre retour en France ne cacherait pas un nouveau projet? Si, je vais tourner Une vie de Chopin. Le prince du piano. Si vous voulez, mais moi, j'ai prévenu les Américains, un Chopin pianiste, il n'en est pas question. Par contre, je joue très bien de la trompette. Ils ont accepté. Et je suis donc en mesure de vous annoncer ce soir que ce sera un Chopin trompette. Et qu'est-ce que ça racontera? Parce que comme c'est parti, on a hâte de connaître la suite. C'est très simple. Chopin fait son service militaire à Dijon dans l'aviation. On lui met un clairon entre les mains parce qu'il n'y a plus de tambour. Et là, il se révèle. Sauf que le général lui dit, écoutez Chopin. C'est très beau ce que vous faites. Très, très beau. Mais c'est trop beau pour ici, il faut aller le faire ailleurs. Sans vouloir épiloguer, on peut dire que on nage dans le délire le plus total, mais apparemment, ça plaît. Voici un autre exemple de dialogue. Toujours sous la forme d'interview. Vous disiez que ça a été dur, cette expédition. Oui, j'ai dû retarder 3 fois mon départ. Difficulté de réunir le matériel? Non, non. Pleyel n'avait plus une date de libre pour mes conférences. Il y a tant d'expéditions en ce moment, vous comprenez, c'est très joli de ficher le camp au Saint-Diable. Si on ne peut pas en parler au retour, à quoi ça sert? À pied. L'expédition a commencé dès la sortie de Paris. On sent très bien d'ailleurs qu'au Kremlin-Bicêtre, la mentalité n'est plus la même qu'à Paris. Plus on avance vers le sud, plus ça s'accentue. Il est indiscutable qu'à Poitiers, les gens sont déjà un peu anthropophages. Et voici aussi un extrait de la conférence sur les Noirs Zahoumés. La différence entre les Noirs Zahoumés du fleuve et les Noirs Zahoumés de la forêt. C'est-à-dire que les noirs ahoumés de la forêt sont des blancs.
Des blancs?
Oui, parce que c'est une race issue de Danois et de Finlandais. Il y a quelques Bretons d'origine, mais ils sont rares. C'est très curieux d'ailleurs, parce que je remarquais dans la première partie du spectacle ce garçon qui joue le maître-autel, il est d'ascendance ahoumé.
Carmé?
Il s'agit de Jean Carmé. Ça m'étonnerait. Dites-lui de venir. Regardez-moi ça. C'est un Zaoumé, ça? Le bas du visage bouffi, joufflasque, et ses cuisses relevées. Oh, ça a vu le soleil, des cuisses pareilles. Comment toi, y en a t'appelé?
Jean Carmé.
Carmé! Oh, c'est joli, ça. Ça signifie petite boule charnue dans son pays, non? J'ai incontestablement raison. Ce garçon est un Zaoumé. Alors, ne me demande pas de vous donner une explication logique et rationnelle, mais c'est difficile de résister au plaisir de vous donner un autre exemple de ces dialogues Poiré-Serrault, surtout lorsqu'il imite les interviews d'écrivains connus à la mode. Voici un extrait. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous l'écrivain Stéphane Brinville, qui vient, vous le savez, de recevoir le prix Gilles pour son livre intitulé Minuit moins le quart. Je rappelle que le palmarès du prix Gilles ne compte que des grands noms de la littérature. Proust, Monterland, Claudel et l'an dernier Jean-Paul Sartre pour son ouvrage, encore dans toutes les mémoires, Les écœurements de Mickey. Je crois, maître, que ce qui caractérise votre œuvre, c'est le manque d'imagination. L'imagination est une chose à laquelle je ne me suis jamais laissé aller. Mais peut-on dire que la platitude du style de votre période parisienne n'a d'égal que le manque d'imagination de la période poitevine? On discute beaucoup à ce sujet. Je laisse la critique et les universitaires en décider, et la postérité, bien sûr. En pleine occupation, dans votre ouvrage Qui sait si les lilas refleuriront, vous avez quand même soutenu que Shakespeare était allemand. Oui, enfin, bon, jusqu'à 1044 environ. Après, je me suis rendu à l'évidence historique. Mais c'est peut-être une thèse que je reprendrai un jour ou l'autre. Et pour terminer avec ce panorama de cabaret, voici l'interview d'un musicien. Quelqu'un affirme qu'il a été le témoin d'un terrible accident. Une crevaison de grosse caisse dans un passage rapide de la troisième rhapsodie de Liszt. Ah, elle est mauvaise. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est mal signalée. À quel endroit? Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais bien la région. Je vais vous dire. C'est dans la petite montée. À un moment, ça fait ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta. Ah! Vous voulez dire dans la grimpette? Mais elle est terrible. C'est une montée chromatique. Ah, je serais curieux de savoir comment ils réagissent à ce concerto si européen de facture. De la façon la plus réconfortante. Alors, il a franchement plu à torrent pendant 2 mois et demi. Non, je vous demande, est-ce que les gens goûtent vraiment? Les gens goûtent? Oh, à vrai dire, non. Il faut un gros repas le midi et le soir. C'est tout. Et enfin, Vous savez qu'il y a une sorte de philosophie, pour ne pas dire de religion, Brassens. Oui, je sais. Tenez. Sans aller plus loin, ma cousine est mariée à un orang-outan. Très gentil, il travaille dans les postes. Mais enfin, un orang-outan quand même. C'est indiscutable qu'il y a 10 ans, on n'épousait pas d'orang-outan. C'est donc bien Brassens qui, piétinant pas mal de préjugés, nous a apporté cette bouffée d'air frais. Alors évidemment, on ne peut pas dire que aujourd'hui ce genre de sketch passerait aussi facilement, mais quand même, les deux acolytes, Jean-Paré et Michel Serrault, avaient un succès foudroyant. Alors, pendant ce temps, évidemment, le cinéma s'intéresse à eux. Alors, Michel Serrault, il joue de petites apparitions dans Les Belles Bacchantes de Robert Derry, dans Les Diaboliques de Clouzot, aux côtés de Simone Signoret et Paul Maurice, aux côtés de Cette Sacrée Gamine, avec Brigitte Bardot. Et c'est Sacha Guitry qui, le premier, a l'idée de les faire tourner ensemble, Jean Poiret et Michel Serrault, dans un film dont ils sont les vedettes à part entière. Le film s'appelle Assassin et voleur. Il est sorti en 1957. Au départ, Guitry voulait le jouer lui-même avec Michel Simon. Pour des raisons de santé, il n'a pas pu. Et c'est vraiment dans ce film-là qu'on découvre le talent incroyable et complémentaire de Michel Serrault et Jean Poiret. Avec en plus une morale, disons, qui risque de faire sursauter dans les chaumières.
Thank you.
assassin et voleur. Les choses, bon, ne vont pas très, très, très vite. Signalons quand même que Michel Serrault, ça c'est pour la simple curiosité, va jouer dans le seul film qui est tourné, Minou Troué, cette gamine qui croyait qu'elle était poète et qui a fait vendre ses livres sous une réputation, disons, aussi vite disparue que retrouvée. Donc, Michel Serrault joue dans Clara et les méchants. Il est un des trois méchants qui enlève la petite surdouée. Oh, à part ça, on a... Bon, OK Mambo, on a Monsieur Léon de Cuir, la Paris-Courteline. Souvent, les gens s'imaginent qu'ils ne peuvent faire jouer Michel Serrault qu'aux côtés de Jean Poiret. C'est même peut-être une chose qui peut nuire à leur carrière respective. Mais enfin, bon, signalons que Michel Serrault fait une apparition dans Le Repos du Guerrier aux côtés de Brigitte Bardot. Il fera Le Corbeau, alors que Jean Poiret fera Le Renard dans Les Quatre Vérités d'après les fables de La Fontaine. Il jouera aussi dans Bébert et l'Omnibus, la suite de La Guerre des Boutons. Un nombre incroyable de rôles de flics ou de gangsters vont jalonner sa carrière jusqu'à un phénomène qui dépasse totalement tout ce que les producteurs espéraient, jusqu'à l'explosion de La Cage aux Folles. Mais auparavant, je rappelle quand même que en 1971, Pierre Tchernia lui avait donné le rôle principal dans un film délicieux qui, si vous ne l'avez pas vu, vaut la peine d'être regardé et revu à l'occasion, Le Viager. Avec son personnage Louis Martinet, je rappelle rapidement l'intrigue, Louis Martinet apprend par son docteur qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Lequel docteur le dit à son frère, et il décide, le docteur et le frère, d'acheter la maison de Louis Martinet en Viager. Ah, seulement les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Celui qui devait mourir au bout de quelques mois dépasse allègrement les 100 ans. Malgré tous les efforts des gens qui payent pour ce viager et qui finalement, bien sûr, n'en profiteront pas. Rappelons qu'aux côtés de Michel Serrault, il y a Michel Galabru, Jean-Pierre Darras, Rose Hivart, Odette Laure, enfin, des comédiens vraiment chevronnés. Mais le succès des viagers n'est rien à côté du succès en 1978 de La Cage aux Folles, tirée de la pièce de Jean Poiret. Alors, La Cage aux Folles. Peut-être est-ce là le premier rôle auquel on pense quand on évoque le nom de Michel Serrault. Alors, d'où s'est venue cette histoire de La Cage aux Folles? Rappelons que c'est Jean Poiret qui est l'auteur de la pièce. Et l'idée leur est venue avec Serrault, enfin l'idée est venue à Jean Poiret, un soir de novembre 1967, donc 6 ans avant que la pièce soit jouée au théâtre d'abord. Jean Poiret est mort et moi étions allés à la première d'une pièce, L'Escalier, jouée par Paul Meurice et Daniel Hivernel. Une histoire de deux homosexuels qui vivent en couple depuis des années et qui passent leur temps à s'envoyer des vacheries. Alors voilà comment Poiré et Cérou réagissent après le spectacle. C'est formidable cette histoire de deux vieux homos qui s'envoient des vacheries en pleine gueule toute une soirée. Ils sont malheureux, aigris, mais en même temps c'est drôle. Un thème semblable traité en franche comédie, tu penses pas que ce serait plus marrant? Tu veux dire à la manière d'un sketch? J'ai envie d'écrire ça, Michel. Une pièce pour toi et moi. En fait, la pièce a mis plus longtemps à naître, puisque elle n'a été jouée au théâtre qu'à partir de 1973. Mais au théâtre, elle a eu plus de 2500 représentations. Alors, sans doute n'est-il pas utile de rappeler que le rôle joué par Michel Serrault, Zaza Napoli, est celui d'un travesti. Alors, pourquoi un tel succès? Parce que lorsque le cinéma s'en est emparé, on pouvait se penser que ça passerait plus mal au cinéma, mais bien pas du tout. Pourquoi un tel succès? D'abord peut-être parce que c'était inhabituel de voir un couple comme ça d'homosexuels sur scène. Ensuite parce que Michel Serrault a su donner à son personnage beaucoup de tendresse, beaucoup d'humanité. Au-delà du ridicule, de cette voix de fossé, il y a quelque chose dans ce qu'il fait qui touche profondément. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on oserait monter une pièce pareille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.
Thank you.